VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 27 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Alberson. Nous commençons avec les titres.
En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que l'on attend le verdict au procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo.
Au Mali, ouverture aujourd'hui à Bamako de la conférence d'entente nationale, mais trois attaques ont fait des morts pendant le week-end.
Au Gabon, c'est demain que doit commencer le dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba depuis sa réélection contestée il y a 6 mois.
Au Soudan du Sud, 6 travailleurs humanitaires ont été tués dans une embuscade.
Washington a condamné énergiquement la détention de centaines de protestataires hier à travers la Russie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la menu déco. Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo devrait connaître ce lundi le sort que lui réserve la justice de son pays. L'ancienne première dame est poursuivie pour crime contre l'humanité et le verdict du jury est attendu aujourd'hui. Des détails d'Abidjan avec Georges Ibrahim Tunkara.
Sauf revirement des dernières minutes, Simone Gbagbo et ses avocats ne devraient pas être présents ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Les avocats de l'ancienne première dame ivoirienne ont claqué la porte lors de l'audience du 15 mars dernier et annoncé la suspension de leur participation à ce procès. Ils demandent la reprise totale des débats en raison, disent-ils, de l'absence de nombreuses pièces manquantes au dossier d'accusation et le remplacement des magistrats par un autre, et cela en plein procès. C'est donc en l'absence de l'accusé et de ses avocats que la cour d'assises d'Abidjan s'apprête à rendre son verdict. Ce matin, la parole sera donnée à la partie civile pour ses plaidoiries. Le procureur prononcera ensuite son réquisitoire avant que le jury ne rende son verdict. L'ancienne première dame des Côte d'Ivoire est poursuivie pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, une commune d'Abidjan, et sa participation à une cellule qui planifiait et organisait des attaques menées par des milices et des militaires lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Simone Gbagbo, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, encourt la prison à vie. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Retour sur les 3 attaques menées par des hommes armés non identifiés et qui ont fait 6 morts et autant de blessés à Gao et Ouélessé Bougou, une localité située à 80 km au sud de Bamako. Ces attaques ont eu lieu alors que doit s'ouvrir officiellement aujourd'hui à Bamako la conférence d'entente nationale. Kassim Traoré fait le point.
La première attaque a été perpétrée contre un checkpoint de l'armée malienne le samedi 25 mars à Almoustras, une localité située à 150 km de Gao. Le bilan est de 3 soldats maliens tués et 4 blessés. Les assaillants non encore identifiés ont emporté un véhicule équipé d'une 14-50 mm, des armes AK-47 et des munitions. La deuxième attaque avait pour cible des cars de transport des sociétés Sonef et Nour qui ont été attaqués entre Gossi et Dori, toujours dans la région de Gao. C'était vers 7h du matin et les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Le seul passager blessé est décédé à l'hôpital de Gao suite à ses blessures. Le même samedi, aux environs de 22h, le poste de douane de Ouélessé Bougou, localité située à 80 km de Bamako, a été attaqué par des bandits armés. Le bilan fait état de 2 douaniers tués et un autre blessé. Par ailleurs, la conférence d'entente nationale s'ouvre ce matin. Les groupes armés signataires de l'accord voulaient bouder cette rencontre, mais certains d'entre eux ont accepté d'y participer. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Gabon lance demain un dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba depuis sa réélection contestée il y a 6 mois. La coalition de l'opposition derrière son rival Jinping fait la politique de la chaise vide, Idriss Fall.
Le président Ali Bongo Ondimba veut un dialogue politique inclusif et sans tabou. Il l'avait annoncé juste après sa victoire contestée qui avait suscité des violences en septembre dernier. Le forum est boycotté par le leader de l'opposition Jinping qui se dit toujours président élu, le gouvernement vient d'interdire les activités de 7 syndicats d'enseignants en grève depuis plusieurs mois. Malgré tout, le premier ministre Emmanuel Isosien Gondé se félicite d'une participation massive de la société civile et d'une cinquantaine de partis politiques. Les discussions devront porter notamment sur la limitation des mandats présidentiels, l'élection présidentielle à 2 tours et non plus à 1 tour unique, le rôle de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle décrié par l'opposition. Ce dialogue devrait être le préalable à des élections législatives déjà reportées à la fin juillet 2017 et qui pourraient de nouveau être ajournées si des réformes sont adoptées.
Au Soudan du Sud, 6 travailleurs humanitaires ont été tués dans une embuscade. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des humanitaires en plus de 3 ans d'une guerre civile brutale qui a entraîné une famine. Claire Morin-Gibourg.
Une source humanitaire a affirmé qu'il s'agissait de 3 Kenyans et de 3 Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Ils se rendaient de Djouba à Pibor. Leur voiture a été arrêtée par des individus non identifiés qui les ont abattus. Selon David Scherer, représentant spécial de l'ONU, l'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par le gouvernement et il a exhorté les autorités à enquêter et à arrêter les tueurs. Djouba empêche les humanitaires d'accéder aux zones tenues par les rebelles. Cette embuscade survient après 2 autres attaques. Le 10 mars à Mayendit, dans le nord, des employés d'une ONG ont été enlevés puis relâchés 4 jours plus tard. Et un agent de la santé a été tué le 14 mars à Yérol, où sévit le choléra. Le 20 février, le gouvernement de Djouba a déclaré que la famine sévit dans le pays et affecte plus de 100 000 personnes. D'ailleurs, Khartoum a annoncé hier l'ouverture de corridors humanitaires de la ville d'El Obeid, dans le centre du Soudan, à Bentiu, dans l'état de l'unité, pour acheminer quelques 10 000 tonnes de sorgho.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont condamné énergiquement la détention de centaines de protestataires hier à travers la Russie, y compris le leader de l'opposition, Alexeï Navalny. Des dizaines de milliers de Russes ont manifesté dans plusieurs villes pour appuyer l'appel de Navalny pour dénoncer la corruption des élites. Les États-Unis se disent troublés par l'arrestation de Navalny, qui a annoncé qu'il se présenterait contre le président Vladimir Poutine en 2018. Interpeller des manifestants pacifiques, des observateurs des droits de l'homme et des journalistes est un affront aux valeurs démocratiques fondamentales, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du département d'État, Mark Toner.
Les militaires irakiens expriment des doutes sur les informations selon lesquelles des frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis ont tué 100 de civils vivants au début du mois dans un bâtiment de Mossoul. Ils ont cité de nouvelles preuves montrant, selon eux, que les djihadistes du groupe État islamique avaient miné le site avec des explosifs. Le Pentagone avait dit samedi dans un communiqué qu'un examen initial a montré que la coalition a procédé à un raid aérien le 17 mars dans un secteur de la ville où des allégations de pertes civiles ont été faites. Selon le même communiqué, une enquête a été ouverte à ce sujet, tout en précisant que les forces de la coalition prennent des mesures exceptionnelles pour éviter de frapper les civils.
En Corée du Sud, le parquet a demandé l'arrestation de l'ancienne présidente Park Geun-hye. Quelques jours après son audition marathon dans le retentissant scandale de corruption et de trafic d'influence qui a précipité sa chute. L'affaire est centrée sur l'ex-confidente de l'ombre de Mme Park, Choi Soon-sil, jugée pour avoir profité de sa proximité avec l'ex-chef de l'État afin de soutirer des dizaines de millions de dollars aux grands conglomérats du pays. Dans ce scandale, l'ex-présidente est notamment accusée d'avoir été la complice de son ami. Beaucoup de preuves ont été rassemblées, mais l'accusé rejette les accusations et il y a un risque de destruction de preuves, a ajouté le parquet pour justifier la demande de mandat d'arrêt. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho. Jacques Aristide.
Le déficit commercial du Burundi a diminué de 10,4% l'année dernière par rapport à 2015, en partie grâce à la baisse des importations de carburant et de matériels électriques. C'est la banque centrale du pays qui le dit. Le Burundi, dont l'économie repose sur les exportations de café et de thé, souffre d'un déficit commercial chronique, une instabilité économique exacerbée par la réduction de l'aide internationale en raison de la crise déclenchée par le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une première au Kenya, le pays a émis un emprunt obligataire par le truchement, tenez-vous bien, du téléphone portable. La banque centrale veut ainsi mettre les titres du trésor à la portée d'un plus grand nombre de Kenyans, dont 23 millions possèdent un smartphone. Pour ce lancement, le gouvernement projette de lever 150 millions de shillings pour aider à financer des projets publics. De vastes chantiers en perspective au Nigeria. Le gouvernement vient d'approuver des projets d'infrastructure à travers le pays à hauteur de 256 millions de dollars. Il s'agit notamment de projets routiers, ferroviaires et énergétiques.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football préliminaire des éliminatoires de la CAN 2019 et on connaît déjà un qualifié.
Il s'agit de Madagascar. Les Malgaches, vainqueurs de Sao Tomé 1-0 à l'aller, l'ont confirmé au retour en s'imposant 3-2. Les Baréas rejoignent ainsi le groupe du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Précisons qu'il reste encore 2 places pour compléter les poules de ces éliminatoires. Tous vainqueurs 2-0 à l'aller, respectivement contre l'île Maurice et le Soudan du Sud. Les Comores et Djibouti tenteront d'imiter Madagascar et ce sera ce mardi.
On jouait aussi en amical hier afin de préparer justement le début de la phase de groupe de ces éliminatoires de la CAN 2019.
La République démocratique du Congo s'est inclinée au Kenya 2-1. Suivant la réaction de Florent Ibengue, le sélectionneur des Léopards, il a été joint à Nairobi par Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'adversaire a marqué des buts que nous on n'a pas marqué parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. On a commis 2 erreurs qui nous ont été fatales. La première, il y a le talent de l'attaquant. On n'a pas pris la mesure de sa vitesse et de sa puissance tout de suite, donc il a pu faire la différence. Et le deuxième but, il y a une mauvaise protection de balle de notre attaquant qui se transforme en contre-attaque. On essaie les qualités de cette équipe, c'est savoir se projeter très vite vers l'avant. C'est pas une équipe qui sait faire le jeu. Nous, on était là pour gagner, évidemment, mais on a des enseignements très intéressants, notamment dans notre vision pour aller de l'avant. Mais malheureusement, on a perdu ce match qu'on ne voulait pas perdre. Donc, il faut retravailler la concentration et surtout la communication entre nous, la communication entre les joueurs.
Le second match de cette journée a eu lieu à Harare. Le Zimbabwe et la Zambie ont fait jeu égal 0-0. À noter qu'à la veille, l'Afrique du Sud a battu la Guinée-Bissau 2-1 pour établir un nouveau record de 16 matchs sans défaite. La Côte d'Ivoire sera face au Sénégal en France. Les Ivoiriens, après leur succès laborieux face aux Russes 2-0, affronteront les Sénégalais qui, eux, ont été accrochés par le Nigeria 1-1. La République centrafricaine joue la Gambie au Maroc. Et puis, à Nouakchott, la Mauritanie va en découdre avec le Congo. Enfin, le match Nigeria-Burkina Faso n'aura pas lieu, puisque quelques joueurs burkinabés n'ont pas pu avoir leur visa.
Événement à Cotonou, pendant le week-end, les meilleurs acteurs sportifs de l'année 2016 ont été primés par le ministre des Sports, et ce en présence de la star du football africain, Samuel Eto'o.
Le triple ballon d'or africain a été spécialement invité par le gouvernement béninois pour donner de la valeur à cette première édition. Écoutons Samuel Eto'o qui nous parle de la raison de son invitation.
Le ministre, il est très très jeune et vraiment en Afrique, on ne voit presque pas ça. De l'autre côté, en échangeant, je me suis dit, mais il faut que j'accompagne le ministre, il faut que j'accompagne ce gouvernement par mon expérience. Parce qu'il est jeune, ce gouvernement veut changer complètement les choses. On n'est plus dans le regard, mais plutôt dans l'action. On veut permettre aux Béninois d'être fiers de quelque chose, d'être un exemple.
86 athlètes issus de 15 fédérations ont été primés. On termine avec vous, Idrissa. Les résultats de la nuit à NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Phoenix et Atlanta 107-92, Sacramento et Los Angeles Clippers 98-97, Chicago et Milwaukee 109-94, Oklahoma City et Houston 125-137, Philadelphia et Indiana 94-107, Miami et Boston 108-112, Memphis et Golden State Warriors 94-106, New Orleans Pelicans et Denver 115-90 et Portland et Los Angeles Lakers 97-81.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, les magistrats marchent ce lundi sur le Parlement dans le cadre d'une série d'actions prévues par l'Union nationale des magistrats du Bénin. L'UNAMAB entend ainsi forcer les députés et le gouvernement à retirer immédiatement le projet de révision de la Constitution qui doit faire l'objet de débats au sein de la Commission des lois. Le président Patrice Talon est accusé par ses détracteurs de chercher à se tailler une Constitution sur mesure, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur-Adandé.
En se faisant porter à la tête du Bénin par 65% des Béninois, Patrice Talon était loin de s'imaginer que la révolution populaire dans les urnes en moins d'un an serait devenue une insurrection populaire dans les rues. Et cette histoire des réformes institutionnelles, point clé du programme de société du candidat devenu président, n'est pas pour arranger les choses. Beaucoup ne comprennent pas qu'au moment où le chômage dicte sa loi, que le panier de la ménagère s'est davantage affaibli. Au moment où les questions d'énergie et d'eau restent en suspens, le chef de l'État trouve opportun de demander une session extraordinaire des députés pour une étude en urgence du projet de révision de la loi fondamentale. Une procédure d'urgence d'ailleurs rejetée par les députés en confiant le dossier à la commission des lois qui dispose de 15 jours pour déposer son rapport. Même dans le rang des députés acquis à la cause de Patrice Talon, on a du mal à comprendre l'urgence autour de la révision de la Constitution.
Sur la question de la révision de la Constitution, il n'y a pas d'urgence. Il y a peut-être des urgences dans la République, et c'est vrai. Nous avons des urgences sur la question de l'emploi des jeunes, sur la question de la qualité de l'eau. Nous avons des urgences parfois sur nos campus, nos universités. Mais on n'a pas d'urgence en ce qui concerne la révision de la Constitution. Nous disons que probablement que le président de la République a été piégé ou a été conduit à commettre la faute. C'est une faute devant la République. Et nous exigeons qu'il y ait clarification de ce qui s'est passé.
La veille de la session extraordinaire au Parlement, le chef de l'État s'était adressé aux populations. Son souci était surtout de faire comprendre aux Béninois sa volonté à prendre en compte les avis de tous dans le processus de révision de la loi fondamentale dans un total respect des textes en vigueur. Patrice Talon.
Aussi ambitieux qu'il soit, le projet de révision de la Constitution reste perfectible. Les modifications proposées renforcent-elles la démocratie? Préservent-elles nos libertés? Permettent-elles une meilleure reddition de comptes? Organisent-elles mieux la vie politique? Favorisent-elles le développement économique et social, ainsi que l'épanouissement individuel et collectif? Chaque fois que la réponse à l'une de ces questions sera négative, pour l'une quelconque des propositions de modification, celle-ci pourra être rejetée.
Le nouveau document transmis au Parlement dépouille la justice de bien de ses prérogatives, selon les magistrats qui ont initié la marche de protestation qui partira de la Bibliothèque nationale pour échouer sur l'esplanade du Palais des gouverneurs ce lundi à Porto-Novo. Pour l'UNAMAB, il est nécessaire de corriger ce document qui, en l'état, reste une véritable restriction des libertés, une façon habile d'instaurer un climat de corruption et d'impunité. Mario Mentonou est membre de l'UNAMAB.
L'impunité, déjà fortement décriée par nos compatriotes, s'est trouvé renforcé dans ce projet. Ce projet s'apparente à un dogme en ce qu'il est presque à l'opposé des conclusions de la Commission des réformes politiques et institutionnelles. Pire, le dit projet s'écarte largement des promesses électorales du président de la République de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs en renforçant la justice.
Certains ne croient plus du tout en la capacité du chef de l'État à conduire à bon port le bateau Bénin, même si celui-ci jure de ses bonnes intentions à instaurer dans le pays un climat de paix, de développement et de cohésion sociale. En tout cas, la cohésion sociale semble être attachée aujourd'hui au retrait pur et simple du projet de révision de la Constitution. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En En Côte d'Ivoire, 151 migrants clandestins ont été récemment rapatriés volontairement de Libye où ils s'étaient rendus dans l'espoir de gagner l'Europe. De plus en plus de jeunes Ivoiriens, à l'instar de nombreux autres Africains, se lancent dans ce genre d'odyssée, dépensant souvent des millions de francs CFA tout en étant conscients qu'il pourrait bien s'agir de leur dernier voyage. En d'autres termes, un destin incertain mais un espoir pour toute une famille, nous dit d'Abidjan notre correspondante Narita Namasté.
L'objectif d'emprunter la voie de Libye, c'était pour avoir une vie meilleure.
Tous aspirent à cela, une vie meilleure. La Libye est devenue l'une des principales routes pour atteindre l'Europe à la Méditerranée. Diawara Yves Mokhtar, âgé de 20 ans, jeune footballeur, rêve d'évoluer dans une équipe en Angleterre.
L'objectif d'un Ivoirien qui joue au foot, la terminaison, c'est au moins dans les pays européens. L'argent qui est pris en Côte d'Ivoire jouant en Libye, ça vaut 1,3 million.
Il a combattu auprès de la rébellion armée ivoirienne, mais il n'a pas été enrôlé pour intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour lui, il était plus que nécessaire de prendre la route de l'aventure.
Depuis la guerre de 2011, j'étais avec des jeunes frères qu'on a combattus ensemble depuis Divavoua. Ils ont eu les matricules. Bon, moi, mon matricule n'est pas sorti. Dès que mon argent, je suis parti en Algérie. De l'Algérie, je suis parti maintenant de la Libye. Nous qui avons combattu, nous, on n'a rien eu. Ceux même qui n'ont rien fait, c'est eux qui ont les matricules. Ils se promènent avec les galons. Donc je vais rester là, toujours les regarder. Je préfère aller me chercher. C'est pour cela que je suis allé me chercher. Wallah.
La misère des immigrants est souvent loin de se terminer. Comme Soumaoro Fatoumata, mère de deux enfants, qui a passé 3 mois dans une prison à Tripoli avec son bébé de 6 mois, souvent privé de nourriture et d'eau, Fatoumata est bien heureuse de retrouver son pays natal. Mais sa joie n'est pas totale.
Ils ont cassé toute leur maison là-bas. Moi, j'ai fait 3 mois avec mon enfant. J'ai fait 3 mois là-bas. Dans prison. J'ai quitté dans prison là pour venir ici. C'est très très content, mais moi, il n'est pas content bien parce qu'il ne voit pas mon petit frère, il ne voit pas mon mari.
Revenu de la Libye, chacun avec son histoire, la joie se lit sur le visage de la sœur aînée du jeune footballeur Diawara.
Ça faisait 2 mois, quelques jours que je n'avais plus de ses nouvelles. Je ne savais plus comment il faut le retrouver. Vraiment, j'avais perdu espoir. Et quand il a appelé qu'il a l'aéroport d'Abidjan, j'ai rendu gloire à Dieu.
Le gouvernement ivoirien n'entend pas les abandonnés.
La Côte d'Ivoire suit de près la vie de ses ressortissants où qu'ils se trouvent. Chaque fois que nous sommes saisis par des Ivoiriens qui sont dans une situation de détresse, le président de la République nous donne les moyens nécessaires pour faire rapatrier compatriotes.
En fin 2016, le gouvernement ivoirien annonçait que la Côte d'Ivoire occupait la 4e place dans le classement des pays pourvoyeurs des migrants clandestins. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En République du Congo, boom de l'Internet et des réseaux sociaux à Brazzaville, la capitale. Reportage de notre correspondant Ngwela Ngosu.
Le gouvernement a offert depuis quelques semaines de l'Internet dans les lieux publics à Brazzaville. Il n'est donc pas étonnant de voir des foules de jeunes surfer sur l'esplanade de la télévision nationale ou au bord du fleuve Congo. Lauriane estime faire aujourd'hui un bon usage des réseaux sociaux.
Parce qu'il y a cela 5 ans, je l'utilisais pour mettre les photos, pour raconter ma vie et tout. Et j'ai compris l'importance d'Internet. Donc depuis 2 ans, je l'utilise juste pour vendre les produits, pour vendre des services ou pour relayer un message. La force d'Internet aussi, c'est ça. Donc moi, je suis sur Internet que de façon professionnelle maintenant.
L'expert en technologie de l'information et de la communication, Idriss Antonin Bosoto, indique que les Congolais s'approprient de ces médias de masse.
Alors moi, je dis que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Rares sont les institutions à caractère universitaire ou scolaire dans lesquelles les jeunes peuvent avoir accès. Au niveau des forfaits offerts par les opérateurs de téléphonie mobile, c'est des forfaits à prix bas, mais de très très mauvaise qualité. Les jeunes, non pas seulement les jeunes, également de grandes personnes, ont aujourd'hui la possibilité de se connecter à partir de leur mobile, à partir de leur tablette, mais également à partir de leur ordinateur portable. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux.
Pour l'opposant Clément Mirassa, Facebook et Twitter aident les acteurs politiques à mieux communiquer avec leurs militants.
C'est un outil important parce que les internautes qui nous connaissent, les internautes qui veulent nous suivre, sont branchés sur nos pages Facebook. Ça nous permet d'informer les gens sur la tenue des réunions, vous avez remarqué qu'il n'y a plus de communiqués qui passent à la télé. Ça a beaucoup diminué. Mais les médias publics, ils nous fuient. On aurait bien voulu qu'ils appellent les gens de l'opposition pour donner leur point de vue sur ce qui s'est passé à Ouesso. Et ça, c'est vraiment triste.
C'est aussi sur les réseaux sociaux que les activistes s'en prennent aux autorités et particulièrement au couple présidentiel Sassou Nguesso qu'ils ont donné pour mort le mois dernier. Trésor Ndila de l'OCDH appelle à une réglementation dans ce secteur.
La liberté a des limites. Autant on a besoin de la liberté, mais il ne faut pas que ce soit une liberté liberticide où chacun se permet de tout faire. Parce que si vous décidez à couper les réseaux sociaux, vous pénalisez tout le monde. Alors que c'est un individu, des individus qui se sont permis à mettre des faussetés sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut essayer aussi de réglementer même l'usage des réseaux sociaux.
Avec l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du pays, l'Internet devient progressivement accessible à tous. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, 4 mois après la pénurie sans précédent de farine de maïs dans la province de Lualaba et le Haut-Katanga, une solution finalement avec des importations en provenance d'Afrique du Sud et de Zambie. Mais les tracasseries persistent aux frontières avec la Zambie, nous dit notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Nous sommes à Mukambo et Kasumbalesa, cité frontalière entre l'RDC et la Zambie, où depuis une semaine, transporteurs par vélo et camionneurs remorques traversent avec la denrée alimentaire rare, qui est la farine de maïs, qui est exonérée par le gouvernement. Pour les petits commerçants qui transportent par vélo, la traversée n'est pas aussi facile, comme tente d'expliquer M. Kebasele, propriétaire d'une dizaine de vélos.
Ils vivent juste à la ligne frontalière, ils payent 5 kwachas qui reviennent à presque 700 francs congolais. Là, c'est du côté zambien qu'ils payent aux militaires zambiens, qu'on appelle ici. Mobile. Et du côté congolais, ils donnent 200 francs par sac aux militaires congolais, 200 francs ou 100 francs aux policiers. Un sac de farine paye 3 fois pour traverser.
Chez les grands commerçants, la traversée des remorques semble très simple, à part les frais à payer pour les contrôles et les labos. Explication de M. Senga, importateur.
7 à 18 000 francs pour la douane. Mais l'OCC, c'est tout un problème. Il y a 400 $ de frais de contrôle, 270 $ de labo. Ça nous fait déjà 670. Ça bon comme ça. C'est l'OCC. Le sac, ça coûte 16 $ aujourd'hui. Équivalent de 21 à 21 500 francs. Qu'il soit grossiste ou détaillant, on achète toujours à 16 $. C'est le prix global.
D'autre part, nous avons cherché à savoir où se trouverait la farine de maïs commandée par Moïse Katumbi, annoncée à moins cher. La question est gênante et la réponse est trop courte chez certains importateurs.
On ne connaît même pas d'où ça vient. Ça ne nous intéresse pas. Et ça part où, hein? Nous sommes Congolais. Si ça vient, on va les voir, mais je ne sais pas, avec l'autorisation de nos autorités quand même, parce qu'il y a des problèmes de terre à terre hein, qu'on ne connaît pas. On ne peut pas y mêler dans ça. On a peur de ça.
C'est dans les coulisses qu'on apprend qu'une cargaison d'un commerçant a été interceptée par la douane pour avoir importé la farine dite de Moïse Katumbi. Tandis que la cargaison de farine de maïs commandée par le gouvernement provincial sont annoncées à la frontière et prennent la direction de Lubumbashi, où nous avons joint les ministres de l'économie provinciale, M. Mpande Kapopo, qui donne des éclaircissements.
Il y a au moins 12 camions qui sont à la frontière et 3 sont déjà sur place. On a commencé la distribution dans les points de vente à travers la ville de Lubumbashi. Et maintenant, je crois que la situation va s'améliorer. Il a demandé aux commerçants de vendre à 22 000 francs le sac. Et entre-temps, le vice-gouverneur a signé pour demander à la direction nationale, l'OCC, à ce qu'il puisse autoriser la direction provinciale de revoir un peu le prix dans les cadres du social afin que la population ne puisse pas encore acheter la farine très chère. Exonérer n'est pas dire importer du n'importe quoi.
Chaque crise a ses lots de problèmes. L'ombre de rétrocommissions plane entre commerçants et certaines autorités. Vrai ou faux, Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive. dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.